Bonsoir. Merci aux murs de ce bâtiment qui nous permettent de ne pas vous demander d'éteindre vos portables, car les portables ne passent pas. Merci à Monsieur Pénac d'avoir accepté notre invitation et à Monsieur et Madame Tesmet d'avoir fait les entremetteurs. Emmanuel, Christophe et moi-même fêtons nos 3 ans de reprise. Je commence la 3e année, c'était notre 3e été. On s'est dit, du coup, pour la rentrée littéraire, on va faire venir un jeune auteur.
Pas d'ironie.
Et merci au Vercors, du coup, de faire en sorte qu'on a ici des auteurs fabuleux, dont Monsieur Pénac. C'est un peu le mythe dans le Diois, tout le monde sait que Monsieur Pénac habite au-dessus. Donc il y a plein de gens qui vous cherchent. Des fois, ils vous trouvent, je pense.
Non, mais à Vassieux, ils sont gentils parce qu'ils ne donnent pas notre adresse. Ils disent cherchez.
Le fait qu'on ait invité Daniel Pénac ce soir, ça a généré énormément de petites anecdotes très positives, des ventes de livres aussi très positives. Mais, plein d'anecdotes, notamment une amie qui prendra la parole puisqu'elle va rapidement se reconnaître, qui disait que quand elle était jeune, elle était montée en stop. Sur le plateau, tu veux raconter ou... Non. Elle était montée en stop sur le plateau, elle avait fait la liste des indices contenus dans la saga Malocène pour essayer de retrouver votre maison. Elle a échoué, mais elles ont fait l'aller-retour en stop exprès.
On a...
Tu t'étais
fait... Oui, si vous avez fait... Alors, il fallait prendre la fée... Il fallait prendre... Non, pas la petite marchande. Monsieur Malocène. Parce que dans Monsieur Malocène, Julie et Benjamin vont chez nous, c'est-à-dire chez eux, via la route des vins. Mais une route des vins qui ne fait pas les Côtes-du-Rhône ni les Bourgognes. Donc ils passent par l'Est. Et alors on a des ivrognes qui, eux, nous ont trouvés. Et puis une autre fois aussi, on était allé, on cueillait des mousserons, parce que c'est pas fatigant. Et en revenant, on a trouvé aussi un trio de jeunes gens, et c'était des Italiens. Et ma femme leur a dit, bon, oui, bon, bien sûr, vous pouvez le voir. Elle a pris une mine sévère. Elle a dit, mais à une condition. Alors, elle a dit, si, ma certo, quelle condition. Elle dit, vous nous faites la pasta. On arrive avec. Et alors, ce soir-là, on a fait une pasta au mousseron. Je vous dis pas.
La soirée va se dérouler, donc on va pas monopoliser, n'empêche, toute la soirée, c'est sûr. On va parler de la saga Malocène, mais comme c'est moi qui présente, c'est moi qui choisis. J'ai choisi aussi de parler de Bartleby. On en avait parlé.
Oui.
Et on avait parlé aussi, mais on en parlera à Malocène. Donc Daniel Pénac, vous avez écrit effectivement énormément d'ouvrages, dont ce titre qui est une pièce de théâtre que vous avez également joué et interprété, qui s'appelle Bartleby, mon frère, qui est une suite du roman que vous avez consacré à votre
frère. Oui, c'est une adaptation, oui.
Et j'ai été très touchée par le texte attribué à Habib sur
la bibliothèque de Tombouctou.
Donc c'est mon petit caprice. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Bartleby, c'est un texte d'Herman Melville, écrit en 1853, qui a été par la suite republié, et qui depuis quelque temps, je pense que c'est un peu dans l'air du temps, refait surface chez pas mal d'éditeurs, mais aussi chez des auteurs qui viennent se réapproprier ce personnage et l'interroger. Il est question dans cette pièce aussi de la façon dont Bartleby vient interpeller chacun d'entre nous. On a tous le souvenir de la façon dont on a découvert ce texte quand on l'a découvert. On a tous une interprétation différente de qui est vraiment ce personnage. Donc c'est voilà.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va essayer. Alors moi c'est ma rentrée, hein. Ouais. Qui ne connaît pas Bartleby? Tu vois, faut la
dire. On a bien fait.
Alors, imaginez 1856, New York, un notaire. enfin l'équivalent d'un notaire, parce que c'est des anglo-saxons, c'est pas exactement, enfin un notaire à Wall Street. Et à Wall Street, il a dans son, il a deux scribes, les scribes étant les ancêtres de nos photocopieuses. C'était des gens dont le travail consistait à recopier les actes notariés comme ça, de façon qu'il y ait plusieurs exemplaires. Et or, l'un de ces scribes est un atrabilaire, insomniaque, qui est tellement de mauvaise humeur le matin qu'il ne peut pas travailler. L'autre est un Anglais, j'allais dire donc, non, pas nécessairement, un ivrogne, qui, après le déjeuner, est tellement bourré qu'il ne peut pas travailler. Et le notaire, suite à un accroissement de ses charges, embauche un troisième par le journal, il fait une petite annonce, et un jour débarque
Bartleby.
C'est un matin d'été, il fait très chaud, on a laissé la porte ouverte pour que ça fasse courant d'air avec une petite fenêtre qui, elle, donne sur un mur. Arrive un jeune homme qui se tient là, le notaire le voit, et c'est Bartleby, qui est tellement, un air tellement triste, tellement, bon, le notaire, bon, enfin, je ne vais pas vous le lire, mais donc un garçon très, très propre, très, très net, très bien élevé, absolument parfait, mais avec un quelque chose de tout à fait indéfinissable qui n'y serait pas. Une espèce d'incomplétude. Bon, toujours est-il que le notaire met un paravent entre son bureau et celui de Bartleby, parce que toutes les pièces sont occupées, et Bartleby commence à faire son travail de scribe. Il commence à faire son travail de scribe, mais dans ses travaux de scribe, il y a évidemment, une fois qu'on a recopié l'acte qu'on avait recopié, il faut collationner cette... Qui ignore ce que signifie le verbe collationner? Moi! Moi aussi, je ne savais pas. C'est-à-dire, on compare les copies, et le jour où le notaire demande à Bartleby qui est derrière le paravent, Emmanuel, elle est là, voilà, c'est Bartleby. Bartleby, voudriez-vous collationner ces documents avec vos camarades, je vous prie? Réponse de Bartleby.
I would prefer not to.
Je préférerais pas. Un notaire, bien attendez, vous m'avez probablement mal compris. Je vous demande de bien vouloir collationner vos copies avec celles de vos confrères. Répétition de Bartleby. I would prefer not to. Et à partir de là, Bartleby va refuser toute espèce de tâche qui ne relève pas de la copie proprement dite. Il va refuser d'aller à la poste, il refuse absolument à tout, il répond I would prefer not to. Et voilà l'histoire, je te repasse.
Mais il le fait sans rébellion, et alors les traducteurs ont débattu pendant, ils débattent encore de comment traduire en français le I would prefer not to. Donc il vaut mieux être bilingue et garder le I would prefer not to.
Alors c'est une grande querelle entre les Français, forcément. Certains font nécessairement les marioles, alors trouvent des choses très subtiles du genre j'aimerais mieux pas. J'ai même quelqu'un qui a dit je préférerais n'en rien faire, pourquoi pas. Alors que en anglais, ce I would prefer not to, qu'on ne peut pas traduire comme l'expression d'un refus caractérisé, en réalité, si on s'en tient à son sens réel, explicite comme ça, ça signifie je préférerais ne pas. Et ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui pose quand même Bartleby pour quelqu'un qui a choisi de préféré ne pas. Autrement dit, de ne pas préférer, de, bref, de s'abstenir. Et c'est une tragédie parce qu'il il préfère si peu que petit à petit, il ne préfère plus rien. Et il en meurt. Il en meurt de faim. Il préfère aussi ne plus manger.
En tout cas, ce Bartleby n'est pas un rebelle. Et donc, pour revenir à Bartleby, mon frère, dans la pièce que vous avez commise, il y a le récit de Habib qui raconte la disparition de la bibliothèque, de Tombouctou, qui est un récit absolument fabuleux.
Ça, on peut le lire. On demande à Habib ce qu'il fait là.
C'est trop beau comme histoire.
C'est une histoire absolument vraie. Le comédien est tout aussi vrai. Et il est allé aussi à la bibliothèque de Tombouctou. Et il joue donc dans notre pièce, la pièce qui est l'adaptation du livre que nous avons monté. Et on lui demande, et Habib, pourquoi vous intéressez-vous à Bartleby ? Et Habib répond, oh, moi, c'est une toute autre histoire. C'est l'histoire de la bibliothèque, c'est l'histoire de Tombouctou. Timbouctou en langue locale. Tim, c'est le puits. Bouctou, c'est le nom de la femme qui dispense l'eau du puits aux caravaniers qui passent. Tim, le puits, est gardé par Bouctou, cette femme. Voilà pour l'étymologie. Et sur cette source qui depuis toujours est le croisement de toutes les caravanes, les hommes du désert ont érigé la ville de Tombouctou, de Timbouctou, ou Tombouctou comme vous dites. Voilà pour la géographie. Nous sommes au XIIe siècle. Au XVe, Tombouctou est devenue la capitale intellectuelle et spirituelle de tous les hommes du désert. Grâce à une autre source, la source de tous les savoirs, la bibliothèque de Tombouctou. Voilà pour l'histoire. Les manuscrits et les livres de la bibliothèque ne sont pas la propriété des bibliothécaires. Ils sont à tous les lecteurs. Les lignes de ces livres n'appartiennent même pas à celui qui s'assied là pour les lire. Elles irriguent et fertilisent toutes les intelligences de passage, afin que le savoir se répande partout dans le monde. Et jusqu'ici, en cet instant précis où j'en parle. Voilà pour les principes. 6 siècles plus tard, le 1er avril 2012, qui n'est pas une date de plaisanterie, mais de réalité méchante. Les fous de Dieu, ennemis jurés du savoir et des livres, empruntant l'immémorial chemin des caravanes, ont envahi Tombouctou au cri de Allahu Akbar. Ils y ont fait ce qu'on savait qu'ils feraient. Violer des femmes, enrôler des enfants, couper des mains, détruire des mausolées et raser la grande bibliothèque de Tombouctou. Voilà pour l'actualité. Mais les bibliothécaires et les habitants avaient vu venir cet ouragan. Devançant les envahisseurs, ils ont emporté les livres et les ont enterrés dans un coin secret du désert. Voilà pour l'homme. L'homme qui ressent et l'homme qui pense. J'ai participé, dit Habib, j'ai participé à ce sauvetage. Les manuscrits les plus anciens et les livres en langue arabe classique, ceux qui, du fond de l'histoire, regardent la science, la littérature et toutes les connaissances qui régissent la vie, nous les avons enterrés au plus profond pour les protéger des intempéries. Nous les avons recouverts des livres de tous les jours, grands et petits, dans toutes les langues du monde, et parmi eux, vos livres de poche, vos folios, vos collections assez accessibles à toutes les bourses. Voilà pour la prudence. Quand les fous ont été chassés, nous avons exhumé les livres, Je faisais partie de ceux qui creusaient le désert pour libérer la source de tous les savoirs. Le premier livre sur lequel je suis tombé, Vive le hasard, était un petit volume en langue anglaise, Les contes de la véranda, d'un certain Herman Melville. Je l'ai ouvert n'importe où. Je suis tombé sur l'histoire de Bartleby le scribe. C'est là que je l'ai lu, assis sur le sable, avec le soleil sur le dos. Voilà pour ma rencontre avec Bartleby. Et il a une deuxième... on lit la... Alors, il a un deuxième passage où il explique Habib. Ceux qui déterraient les livres avec moi m'ont demandé ce que je lisais. Qu'est-ce que tu lis, tonton ? L'histoire de Bartleby le scribe. Et qu'est-ce que raconte cette histoire, tonton ? C'est l'histoire d'un homme qui s'arrête. Mais il s'arrête où, tonton ? Il s'arrête en lui-même, là où il se trouve. Et où est-ce qu'il se trouve, tonton ? Il se trouve partout où on lit son histoire. Bah alors, il se trouve ici, avec toi. Et avec vous tous, si je vous la lis. Ils ont fait cercle autour de moi, et je leur ai lu Bartleby le scribe. J'ai repris dès la première phrase du notaire. Je suis un homme d'âge mûr. Et ils ont écouté Melville jusqu'à son dernier mot. Avec grand mérite, car le soleil n'était pas tendre et que la lecture fut longue de deux langues. Je lisais l'anglais de Melville d'abord, que je traduisais en Bambara, qui était notre langue à tous ici. Ouais, on peut dire que je leur ai lu deux fois l'histoire de Bartleby, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ceux qui étaient déjà assis chuchotaient à ceux qui nous rejoignaient « Tonton, lis l'histoire de l'homme qui s'arrête ». Les nouveaux venus s'asseyaient en silence et tous écoutaient, sans un mot et sans un geste, avec beaucoup de mérite là aussi, car ils étaient hommes et femmes de palabre. La plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. C'est pour eux que les livres sont écrits. C'était pour eux que nous les avions cachés sous le sable. C'était pour eux que nous les déterrions. Quand le notaire prononça les dernières paroles de cette histoire, ah, Bartleby, ah, humanité. Leur silence recouvrit un long moment le silence du désert. Puis commença le palabre. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on y a dit. Un nouveau soleil se levait comme nous nous sommes enfin séparés. Je vous dirai le commencement. La première phrase. Une jeune femme a déclaré « Il a raison de se taire ». Un garçon a demandé pourquoi. C'est ainsi que s'est allumée la grande chaîne de la parole collective et réfléchie. Bartleby se tait parce que tout a été dit et que rien n'a été entendu, a dit quelqu'un. Et de question en réponse, l'intuition générale convainc que Bartleby avait fait comme nous. Il avait enterré toute la parole du monde, tout ce qui avait déjà été dit. Par respect peut-être. Peut-être par respect pour la parole dite. Bartleby était devenu le désert. Voilà l'histoire de Tombouctou.
Merci.
Qui est une histoire vraie. Hein? Cette histoire de Tombouctou est vraie. À ceci près que tous les livres n'ont pas été enterrés dans le désert. Les habitants et les bibliothécaires ont eu le temps d'en envoyer dans d'autres bibliothèques du Mali. Mais il en restait une grande quantité qui ont en effet été enterrées dans le désert. Et en effet, Habib était là pour les déterrer.
En tout cas, merci d'en avoir fait le récit et la lecture. Avant de laisser la parole à vos nombreux lecteurs et nombreuses lectrices, un petit point aussi sur donc le dernier diptyque de la tribu malocène qui est revenu peupler les familles après presque 20 ans d'absence. Donc le cas malocène, ils m'ont menti, et Terminus malocène. Alors Terminus malocène, on m'a dit c'est la fin de malocène. Mais quand Monsieur Pénac est venu aussi, il a dit oui, il y a un scoop. Alors c'est pas tout à fait malocène, mais il va y avoir un autre livre.
Je ne vais pas m'arrêter d'écrire.
Ben, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Et le monde entier, on retrouve l'ensemble de la famille, avec des notes très contemporaines dans les enjeux qui sont nos enjeux sociétaux actuels. Et comme vous avez beaucoup lu, c'est moi qui vais lire ça. Le manifeste des ravisseurs. Donc pour ceux qui n'ont pas lu... Non, on va pas dire qui n'a pas lu. Donc pour ceux qui n'ont pas lu...
Qui
le... Non, on l'a dit, non, on le fait pas. Dans le cas Malesen, un homme d'affaires à la fois attachant mais vilain, capturé. Au bout de quelques jours de disparition, les ravisseurs envoient le manifeste suivant. Attendu que le préambule de la Constitution de 1946 garantit à tous des moyens convenables d'existence. Attendu que cette résolution demeure en toutes lettres dans l'actuelle Constitution.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Attendu qu'elle a néanmoins été abandonnée par nos gouvernements successifs, de droite comme de gauche, pendant ces trois dernières décennies. Attendu que cet abandon a pour cause l'allégeance de la force publique à la minorité des plus riches. Attendu que, durant ces 30 dernières années, les avoirs de la dite minorité ont enflé à proportion de l'accroissement vertigineux du seuil de pauvreté. Attendu que, conséquemment, nos gouvernants mènent une guerre ouverte aux pauvres, qualifiée d'assistée, plutôt qu'à la pauvreté, qualifiée de conjoncturelle. Attendu que le bénévolat prend partout le relais des missions de protection constitutionnellement dévolues à l'État. Attendu que de ce fait, à l'universelle notion de solidarité, s'est substituée la très chrétienne, donc subjective, donc individuelle, donc aléatoire notion de charité. Pour ces motifs, nous, magistrats bénévoles constitués en tribunal provisoire, avons procédé à l'arrestation du dénommé Georges Lapietta, prédateur notoire des catégories les plus démunies. Sur ce, il demande la rançon. Le surnom d'Annie Le Rouge était libre. Monsieur Pénac a postulé. Et c'est, il y a quand même une grosse part de militantisme dans le Carmel aussi. Voilà, j'ai fini mon petit show. Je vous laisse la parole. Bravo. Merci. Ça va être à vous de poser des questions. Profitez-en.
Alors, vous pouvez poser absolument toutes les questions qui vous passent par la tête et je vous répondrai tout ce qui me passe par la tête.
Moi, j'ai une question. J'ai tellement adoré la saga Malesen. Je me pose la question, monsieur Pénac, êtes-vous fou? Et si oui, comment?
Il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition pathologique de la folie. Non, je raconte des histoires. Voilà. Je raconte des histoires. Je suis un conteur, un narrateur. Et je ne sais pas faire autre chose. Comme je suis vieux, c'est-à-dire de ma génération, j'ai commencé par faire le mariole, l'intelligent, l'analyste, l'essayiste. Et j'ai commencé en écrivant un essai qui s'appelait « Le service militaire ». En fait, l'essai, mon titre à moi, c'était un essai sur le service militaire et mon titre était « Tu seras un fils, mon homme ». Faire un petit bonjour à l'ami Kipling qui n'était pas absolument innocent en matière de guerre et qui a envoyé son enfant à la mort, le pauvre, et qui en a eu une tristesse terrible. Et puis, donc l'essai a été publié, et puis, dans le même temps, arrivé le structuralisme. Alors, le structuralisme avait décrété la mort du roman, c'est-à-dire la mort de la narration et la mort du héros. Et comme par ailleurs, c'était des gens plutôt sympathiques, Roland Barthes, tout ça, c'est des gens très bien. Barthes était un homme extrêmement sympathique, extrêmement simple. Mais le problème, c'est qu'il était entouré de curés sinistres qui se sentaient les détenteurs de la loi surréaliste. Et ce surréalisme s'est vraiment abattu sur la littérature française comme une chape de plomb. et au profit d'une seule maison d'édition qui était les éditions de Minuit. Et bon, moi, je lisais tout ça, mais je m'ennuyais beaucoup. Ça veut dire que dans les petits milieux, nos milieux à nous, ou les milieux de profs, moi j'étais un petit prof, j'étais, pour vous donner l'importance, que vous figuriez l'importance de mon grade, j'étais adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement. On ne peut pas imaginer le haut d'une pyramide avec ça. Et là, parce que j'avais le strict minimum pour enseigner. J'avais une licence de lettres, alors voilà, j'enseignais à ce genre de gaillard-là, comme ça. Là. Et bon, mais je le faisais bien, ça me plaisait. Mais alors donc, dans tous ces milieux de demi-intello, il y avait ce diktat structuraliste, il fallait qu'on se cache pratiquement au cabinet pour lire un roman anecdotique. Sauf que, vers la même période, est arrivé en France le réalisme magique. Gabriel Garcia Marquez, c'est, voilà, avec, pour essayer de vous donner une idée de la beauté du réalisme magique, il y a le début de Cent ans de solitude. Et le début de Cent ans de solitude, c'était magnifiquement traduit en plus par un type qui s'appelait Claude Durand et sa femme qui était latino-américaine. Et le début de Cent ans de solitude dit ceci, dit « Bien des années après, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se souvenir de cet après-midi de son enfance où son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo n'était alors qu'un petit village dont les maisons de pisé s'étiraient le long d'une rivière aux eaux diaphanes qui roulait des pierres blanches comme des œufs préhistoriques. » Alors j'aime autant vous dire qu'un truc pareil qui débarque en plein structuralisme, le Pénac se transforme en fétu de paille et plonge dans la rivière. Et là, il y a une révélation littéraire qui est que le récit ne meurt pas. On peut toujours édicter toutes les lois qu'on veut. On peut toujours être les meilleurs analystes de la littérature, les meilleurs toubibs littéraires, mais un toubib n'a jamais empêché un patient de vivre. Et le structuralisme n'a pas empêché la littérature de continuer son travail immémorial, qui est de raconter des histoires. Et donc, moi, je raconte des histoires. Mais j'étais donc coincé par ces trucs-là. Jusqu'au jour où un de mes copains m'a dit je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Mais lui, me fais pas chier, raconte des histoires. Comme tu nous les racontes oralement. Et puis voilà. Ensuite, je me suis marié. Et là, j'ai pendant 40 ans, j'ai vécu et je vis toujours avec une complice en histoire. Et donc, voilà. Et c'est pas de la folie. Il y a quelque chose. L'originalité des manuscrits, c'est pas de la folie. En matière de récit, c'est un peu comme dans les rêves. Ceci entraîne cela. C'est pas moi qui suis fou. C'est la logique narrative qui est folle. Parce que il y a tout de même, quand on arrive à une certaine époque et à un certain âge, il y a des choses qu'on ne veut plus faire. On ne veut plus écrire des romans où A entraîne B, qui est T, etc. Des romans policiers où une énigme doit être suivie par un flic sur un chemin finalement assez logique, d'indices. Tout ça m'embêtait. Et le truc, c'était de vous perdre. C'est-à-dire de vous faire imaginer, de faire imaginer au lecteur des choses qui ne se passeraient pas du tout à la fin. Sinon, on va chez le libraire et on se fait rembourser. Donc, c'était ça qui m'amusait. Donc, c'est ça la folie. La folie, en fait, elle est un peu littéraire.
Moi, je veux bien. Vous avez parlé de complicité, d'avoir une deuxième, en fait, que votre femme représentait comme une deuxième autrice de vos livres, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se fait?
Comment ça marche? D'abord, au début, elle sonne chez moi. Je la connaissais pas, jamais vue, ni d'Ève ni d'Adam. Elle sonne, j'ouvre et j'en prends pour perpète. C'est déjà un truc. Et je crée le personnage de Julie Corançon.
C'est pour ça que je vous ai cherché à Corançon.
Je crée le personnage de Julie Corançon, qui d'ailleurs ne lui ressemble pas tellement, ni physiquement, ni... Elle, Julie est une emmerdeuse, ce qui n'est pas le cas de ma femme. Et ça dure 40 ans. Et au bout de 40 ans, on découvre que la mère Malocène est la championne du gratin dauphinois. Or, c'est pas la mère Malocène, c'est ma femme qui est la championne. Et elle, vous savez, les gens autour de qui tournent plus ou moins les œuvres, me dit un jour, oui, c'est très bien, très bien. Alors au début, j'étais la mère Corançon, j'étais Julie Corançon, et maintenant je suis la mère Malocène. C'est-à-dire, les 40 années ont passé pour tout le monde, pour Benjamin. Voilà. Alors autrement, le travail... à proprement parler, comme les Malocènes sont assez oraux, c'est de l'écriture, en tout cas, c'est de l'écriture oralisée. Ça n'existe pas, l'écriture orale. Ça transite toujours. L'oralité transite par beaucoup d'écritures pour revenir sur le papier comme une idée de l'oralité. Mais parce que si vous mettez un magnétophone dans un bar et que vous écoutez les gens parler et que vous reproduisez, vous n'obtiendrez rien d'écrit. Donc il faut travailler ça. Et ce que fait Mine, ma femme, régulièrement, je lui dis encore ce matin, je lui dis, tu pourrais pas me lire ça. Et comme elle lit très bien, elle lit et je vois si elle achoppe sur un mot, c'est que... il y a un problème rythmique ou de couleur ou de et je retravaille quoi. C'est à peu près ça, plus des choses rigolotes où on se fait des duels pour les titres. Elle prétend qu'elle est propriétaire des plus beaux titres, ce que je conteste formellement. Mais c'est vrai en même temps. Parce que j'ai dit, alors si on l'appelait comme ci, comme ça, et on trouve 150 titres, puis à un moment donné, elle dit, tiens, La petite marchande de prose, c'est pas mal. Je dis oui, mais c'est pas de toi, c'est déjà un titre de paragraphe. Elle dit, bon. Donc il y a ça, il y a cette collaboration. Puis elle, comme elle-même écrit de son côté, il y a le même travail en sens inverse, sauf qu'il est moins oral. Parce que son... Je lis soit une fois le livre fini et. Bon, et là aussi, il y a un regard qui est un regard critique, assez très admiratif, même parce que ça ne ressemble pas du tout à... Elle a écrit un livre qui s'appelle « La lumière carrée de la lune » et qui est une recherche d'un maître japonais qui a mis au point un truc qu'on appelle le Jinjin Jutsu. Le Jinjin Jutsu, c'est vachement bien parce que c'est de l'acupuncture sans aiguille. Or, ce maître japonais n'a pratiquement laissé aucune trace. Et elle est partie à la recherche de ce maître japonais. Et au fur et à mesure qu'elle allait tomber sur lui, ou presque, c'est que la cible redisparaissait, reculait. Et moyennant quoi, elle a écrit, au fond, une vision du Japon tout entier, dans lequel Japon, il y a une fête votive par semaine. Une fête votive par semaine. Et là, le livre échappe à son projet initial et devient une espèce de merveille là, qui fait voir le Japon de façon tout à fait originale. Voilà, ça c'est nous deux. Autrement, on bosse chacun de son côté. Oui.
Moi, je comprends rien à vos histoires. Moi, je suis très sensible à la musique des paragraphes. Et c'est un peu comme une sorte de fugue. Enfin, il y a des tas de voix qui s'interpénètrent. Et voilà.
Mais oui, et c'est pas très grave de rien comprendre.
Parce que la musique, c'était pas très grave.
Oui. Oui, oui, c'est vrai que le
mélange entre c'est les per... qui...
Oui, puis les personnages n'ont d'intérêt que... Mais quelquefois, moi, je suis assez paumé aussi à la fin. Là, je me dis, alors, qu'est-ce que je fais? Terminus Malocène, j'ai failli mettre comme sous-titre Terminus Malocène, je descends tout le monde.
Gallimard vous aime tellement qu'ils ont même fait la généalogie malocène sur le livre de poche. Ils font pas ça pour tout le monde, je pense.
Mais c'est ce que montre bien le dessin de Tardy.
Oui, oui.
La foultitude de personnages.
Ouais. Alors je vous fais Tardy. Bon, une couverture pour Malocène. Bon, Pénac, je vais quand même pas me le farcir, ton Malocène. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, écoute, il y a un type, un romancier qui est planqué en forêt pour écrire quelque chose qui va en gêner quelques-uns, d'où il y a tout le Vercors, mes copains, Mazé, tout ça, là où les paysans qui s'entourent et qui le défendent dans une petite cabane de la forêt. Bon, un mec planqué dans la forêt qu'on veut buter. Bon, bah d'accord, je te fais ça pour la semaine prochaine. Je vous ai fait la voix de Tardy.
Moi, je voulais simplement vous remercier parce que j'étais une maîtresse d'école et j'ai chaque année, enfin, pendant les années où j'avais les classes qui s'appropriaient le mot de l'œil de Cabo Caboche, et vous avez réussi à faire lire et aimer lire des élèves d'une cité près de Marseille. Et j'ai eu un bonheur moi-même à étudier ces livres que je connais par cœur parce que j'ai écrit des questionnaires. J'ai énormément travaillé là-dessus, on a écrit un peu des choses un peu similaires. Voilà, je me suis dit si un jour je vois M. Pénac, je lui dirai que c'est...
Ah ben ça me fait plaisir.
Des générations d'enfants qui ont vraiment adoré vos livres.
Oui, quelquefois je rencontre des gens qui ont une cinquantaine d'années qui disent « Oh, l'œil du loup !» Je dis « Toi, t'as été torturé par ton instit avec l'œil du loup. » Et c'est assez souvent le cas.
D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de littérature pour les plus jeunes.
Et il y a eu Ernest et Célestine.
À part Ernest et Célestine. Ah, oui.
Qui n'est pas de moi, hein, vous savez ça. C'est d'une Belge qui s'appelle Monique Martin, qui était peintre, magnifique peintre, et qui s'appelait Gabriel Vincent, et sous le nom de Monique Martin, faisait des petits albums. Vous les connaissez, ces petits albums? Oui. Et quand ma fille est née, très vite, je lisais les Ernest. Enfin, parce que c'est presque muet. Alors, Ernest est un gros ours. Tu connais ça, toi, Ernest et Célestine? Célestine est une toute petite fille, une toute petite souris. Alors, la petite souris, évidemment, elle incarne très facilement une petite fille. Le gros ours, évidemment, c'est le papa gentil. Après, j'étais en correspondance avec cette dame et nous ne nous sommes jamais vus ni téléphonés. On s'est écrit pendant une douzaine d'années. Et puis un jour, donc, un producteur m'a appelé pour faire le film. Et là, il y a un scénario. J'ai écrit le scénario, ensuite le roman à partir du scénario.
Oui. Vous avez déjà répondu un petit peu, mais enfin, même pas mal. Moi, j'aimerais savoir comment vous viennent les histoires. Quand je vous vois, j'ai l'impression que vous êtes plein d'histoires, quoi. Est-ce que ça, comment ça vient? Et question subsidiaire, est-ce que ça vous arrive d'avoir l'angoisse de la page blanche?
Je vous ai apporté la réponse. Je vous ai apporté la réponse parce que c'est là-dessus. Alors, la réponse, la voilà. Elle est dans le prochain bouquin. Alors, c'est pas le premier chapitre, mais c'est un des chapitres. C'est un chapitre qui répond à votre question. En mettant le point final au premier volume de mon dernier roman, Le cas Malocène, le premier volume, il y en a deux. En mettant le point final au premier volume, je n'avais pas la moindre idée de ce que contiendrait le second. Ça répond en partie. Qui avait enlevé Georges Lapieta et son fils? Quand et comment les retrouverait-on? Je n'en savais rien et pour tout dire, je m'en fichais un peu. Ce qui, ce qui renvoie. C'est vous qui écrivez tout ça. Et pour tout dire, je m'en fichais un peu. Quand et comment les retrouver? Donc, je n'en sais rien, pour te dire, je m'en fichais un peu. D'autres projets, sans rapport avec la tribu malocène, s'étaient intercalés entre ce premier volume et celui qui devait clore la série. Raconter mon frère disparu, qui me manquait tant, écrire sur le rêve, si nécessaire à mon imagination, le frère, les rêves. Plus que des sujets, des impératifs. C'est ça le truc. C'est, tout d'un coup, tu as envie d'écrire un truc. Et tu ne sais pas pourquoi, ça devient impératif. C'est stupide parce que ce n'est pas un essai, ça ne va pas éclairer une partie du monde, ni un segment de l'économie, ni... Non, c'est un truc qui passe, ça devient plus que des sujets, des impératifs. Le genre de nécessité, écrire sur, qui chez moi vire vite à l'obsession. Tout à coup, on ne peut plus se concevoir sans avoir écrit ce qu'on a là, maintenant, envie d'écrire. On se sent absolument soi-même dans ce désir. Sa réalisation vous devient vitale, comme j'aimais mon frère. On entame ce nouveau livre avec la même ardeur que je mets aujourd'hui à commencer celui-ci. Tout livre. Écoute ça, parce que ça, c'est quand tu vas te mettre à écrire, c'est important. Tout livre. Roman, essai, récit, peu importe, est une promesse d'éternité. Le temps ne passe plus. Chaque jour est le jour du livre. Pourtant, l'heure tourne bel et bien, les semaines et les mois s'accumulent. On écrit sur le frère disparu, puis on écrit sur la part du songe. Mais bien sûr, l'éditeur se rappelle à votre bon souvenir. Et Malocène, le deuxième volume... Tu y penses? T'as 5 ans de retard quand même. L'auteur, t'aurais pas dû publier le premier tome avant d'avoir le second entre les deux. Je te l'avais dit. L'éditeur, je pouvais pas imaginer que tu mettrais 5 ans à l'écrire. L'auteur, je t'en ai donné 2 autres entre temps. 5 ans, Daniel. 6 avec les délais de fabrication. Il y a de quoi débrancher tes lecteurs. Petite polémique entre ces vieux camarades. Ils se connaissent depuis des décennies, mais ne peuvent s'en empêcher. Leur façon de rester jeune, j'imagine. Au reste, l'éditeur a raison. Ni lui, ni l'auteur n'ont désormais le temps de procrastiner. Cette fois, faut s'y mettre. Malocène. Qui a enlevé Georges Lapieta? La question restait entière. Pas la moindre idée. Et aucune envie de chercher la réponse en empruntant le traditionnel chemin de l'enquête policière. Qui, comment, pourquoi, quels indices? Ce côté petit poussé du roman noir m'a toujours cassé les pieds. Dans ces conditions, le mieux était de retourner au cœur de l'action. L'enlèvement de Lapieta s'est passé dans un escalier. Bien. Revisitons cet escalier. Et c'est le début du deuxième volume. Là, c'est comme ça que ça marche.
On a l'impression d'un... Je n'ose pas dire le mot, d'un foutoir.
Oui, c'est un foutoir. Mais c'est un foutoir dans lequel... C'est vrai d'ailleurs, c'est l'imagination, c'est les rêves. C'est un foutoir.
J'aurais pas dû le dire.
Hein, non, si. C'est un très très grand foutoir dans lequel il faut installer un type d'ordre. Qui n'a aucune rationalité, mais qui fait que le lecteur il suit. Il suit. Il faut créer un esprit de suite, je dirais. Un truc. Et c'est ça. Et dans ce livre-là, c'est la même chose. Par exemple, le deuxième Malocène commence par une phrase, c'est « T'as bien fait le ménage, Kébir ?»
Marcel.
Hein, t'as fait.
Je m'appelle Marcel.
T'as bien fait le ménage, Marcel.
Alors, Kébir, tu as bien fait.
Ah, quand même.
Mais c'est parce qu'il s'appelle
c'est
Marcel.
Qui, en c'est qui a écrit. Quand même.
Il s'appelle Marcel. Il s'appelle
oui. Marcel. Alors bien, ce Kébir, le vieux, le surnomme Marcel. Ouais. Mais il y a toute une génération là-dedans, ici, qui ne sait absolument pas pourquoi Marcel Kébir, ça le fait rigoler. Mais les vieux, comme nous, Marcel Kébir, ça a été une...
Pour les jeunes, il y a Wikipédia.
Marcel Kébir, c'est une bataille où nos alliés, les Anglais, ont coulé notre flotte en faisant 3200 morts. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et alors au début, c'était donc cette première phrase. Bon, t'as bien fait le ménage, Kébir. Le lecteur tombe là-dessus. Et le Kébir qui entend ça, commente, dit, il a la trouille. Le type qui lui parle lui fait peur. Et pourtant, il parle très gentiment. Et c'est Pépère. Et Pépère... qui connaît Pépère? Et Pépère est évidemment, il a raison d'avoir peur, Kébir. C'est un salopard qui tue comme il respire.
Et dont on aura des nouvelles.
Et dont vous aurez des nouvelles.
Et est-ce que quand vous écrivez avec le même plaisir que vous nous montrez là, la même excitation, c'est tout...
Ça dépend. Quand ça marche, oui. Et alors, c'est comme si je me parlais à moi tout seul. J'ai l'air d'un cinglé. Et alors là aussi... Le mariage. 40 ans. Ça donne quoi? Ça donne une petite cabane dans le jardin, assez moche, mais qui est devenue mon bureau. Alors, et qui est faite de façon telle, c'est pas exprès, mais toutes les planches sont disjointes. Ce qui fait que quand il y a beaucoup de vent, il y a du vent à décorner tous les cocus du plateau, quand ça souffle, c'est terrible, il y a des vents à 70 à l'heure, et bien dans la cabane, comme les planches sont légèrement disjointes, le vent se casse sur les murs, et il y a un petit frisli qui fait que dans la cabane, il fait toujours très très bon. Et le vieux peut bosser, et c'est sa femme qui lui a fait la cabane. Et au début, il se foutait avec une amie. Je me moquais d'elle. Et ben voilà, résultat.
Les premiers Malocène, ils étaient d'ailleurs publiés en Policier.
Oui, c'était à la Série Noire. C'était à la Série Noire à l'époque. Que vous n'avez pas connu.
Bah non.
Où la Série Noire était une. La Série Noire, c'est une collection formidable. Alors là, voilà pourquoi.
Et pourquoi ça a changé?
Parce que c'est une question d'argent.
Je m'en doutais.
Bah bien sûr. Ça a changé parce qu'à la Série Noire, les exemplaires coûtaient. Je ne sais pas combien à l'époque, 50 centimes. Enfin, je ne sais pas. Enfin, si on prenait en euros aujourd'hui, un folio, ça coûte 7-8 euros. Et une blanche, ça en coûte 22-23. Donc l'éditeur gagne davantage d'argent. Mais l'intérêt de la collection, la Série Noire, était une collection de polars qui dataient de l'après-guerre. Ça faisait déjà, elle aussi, 40 ans que ça existait. Et le diktat structuraliste ne s'appliquait pas à la Série Noire parce que c'était de la littérature underground et que tous ces intellos étant un peu snobs, ils avaient l'impression de fréquenter les faubourgs en lisant la Série Noire. Et là, donc, moi je suis allé à la Série Noire, on pouvait faire ce qu'on voulait, on était persona grata. Et comme Gallimard est situé juste à côté du CNRS, de l'École des sciences de l'homme, etc., nos premiers lecteurs étaient les intellos qui s'autorisaient à lire des polars.
Petite récréation.
Et moi, qui vous parle, j'ai vu dans la rue Le Roi la Durie, vous voyez qui était Le Roi, lire Au bonheur des ogres. J'étais
déjà encore du Hamel quand tu as sorti.
Non, c'était Robert Soula. C'était Duhamel était mort déjà et il avait été remplacé par deux types, Robert Soula et Christian Mounier, qui étaient. Alors, mon arrivée à la Série Noire, ça aurait pu être vous qui m'avez. Ils acceptent mon bouquin, mais j'étais pas là, il fallait que j'aille m'occuper de ma maman qui s'était cassée la cheville. Donc, j'arrive 3 semaines après, je frappe et j'entends un trait. Sur ce ton, un cri, j'entre et je vois un mec avec une tête rouge, comme ça, des cheveux blancs, comme ça, un bandana rouge. C'était Christian Mounier. Et il me regarde, il fait « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Pénac ». Je suis Pénac, c'est le « Au bonheur des ogres ». Je vous fais avec les temps et tout. « Ah, c'est vous ». Alors, il dit « Ben ouais ». Il dit « Entrez puisque vous êtes là ». Alors j'entre, je m'assieds et je lui dis « Mais alors c'est vrai, vous le prenez, mon bouquin ?» Et là, vous êtes tous là, c'est tout ça, vous allez voir, c'est autobiographique. Et il me dit « Vous avez quand même conscience que vous êtes complètement cinglé. » Alors je dis « Non, non, mais sans blague, vous le prenez Il n'y a rien à retravailler ?» Il dit « Mon pauvre garçon, c'est dans un tel état, autant le publier. » Et là, je me dis, ça y est, je suis arrivé à la maison. Je suis chez moi. Je ne bouge plus d'ici. Et à ce moment-là, passe derrière mon dos, face à Christian. Il y a un mec qui passe. Et Christian fait « Pénac ». Le gars va s'asseoir à son bureau. Alors je vois un petit bonhomme, tout rond comme ça. Il ouvre son tiroir. Je vous jure que tout ça est vrai. Il prend un harmonica et il me dit « Tu sais te servir de ça, petit con ?» Je lui dis « Mais je veux, oui. Fais voir. » Et si vous avez un harmonica, il m'envoie l'harmonica et je lui joue la carmagnole. Pam, 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 ta, 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 ta. Je dis « Bon, ben, bienvenue au club. » Et là... Pour répondre à Emmanuel, là, il me dit 13 250. Je dis quoi, 13 250 quoi ? Il me dit le nombre d'exemplaires que tu dois vendre. Si t'es en dessous, c'est pas grave. Si t'es au-dessus, on te vire. Vous me direz pourquoi ? Je dis pour que t'ailles dans la blanche, que tu rapportes plus de pognon, petit con. Et là, je me suis dit, ces deux-là, on ne les quitte pas. Et on est devenus amis avec eux. Et quand Christian Mounier a pris sa retraite, ma femme dit, on va faire un club, parce que celui-là, il va s'enterrer, on ne verra plus. Il va se laisser crever dans son coin. Je vois. Et, alors on fait un club. Et tous les premiers mardis du mois, on se voyait, soit chez Tonino Benacquista, que vous connaissez, qui est un auteur aussi, soit chez Christian et Madeleine Savin, soit chez nous. Et pour ne pas s'ennuyer, ma femme, j'ai l'impression d'être comme Colombo. Ma femme... Ma femme dit, on va inviter... Il y aura un invité au club chaque premier mardi du mois. Alors, effectivement... Tous les premiers mardis, il y avait une soeur, sinon ça serait emmerdé à la longue, tous les six toujours. Et bon, ça a été le club jusqu'à la mort de Christian. Et Christian Mounier, poète, alors, poète, enfin, c'était un type absolument merveilleux, mais il faut le faire parler, quoi. Il monte, nous habitions en Belleville, tout en haut, de 5 étages, et il était vieux et alcoolique. On est monté comme ça. Et il disait, on l'entendait dans l'escalier, il disait ce club, c'est un grotesque, c'est ridicule. C'est les mardis, le premier mardi, c'est un homme grotesque comme des rentières autrichiennes. Et alors, on était en haut, assis sur l'escalier, avec Tonino Benacquista, et Tonino gueulait « Arrête de râler, t'es notre totem !» Et puis lui, il arrivait « Mes pauvres enfants, vous êtes d'une légèreté. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Mais on est à la veille d'une guerre. » Et ah bon ? Et quels sont les... On n'était pas maintenant, hein ? Et c'était en 80. Et alors, ah bon ? Et quels sont les indices ? Et Christian répond cette phrase merveilleuse, dit « Les sacs à main des femmes sont affreux. Or, en 13, ils étaient affreux, et en 38, ils étaient... »
Incroyable.
Et lui, alors lui, il faisait des petits... Alors, il bossait à la cave, la série noire. C'était à la cave de chez Gallimard. Parce que tout ça est très architecturalement structuré. La cave, la série noire. Les étages, la blanche. Le petit pavillon, la Pléiade. Je disais à Antoine, le jour où tu feras du porno, tu creuseras. Et alors, ils étaient à la cave, et il y avait là Christian Mounier, Robert Soula et Odile Laguet. Et Odile Laguet, c'était pour les gars. C'est curieux que vous ayez eu le culot d'exister après nous. Nous, on a des références. C'était Glenda Jackson. Vous vous rappelez? Vous ne voyez pas? C'était une actrice merveilleuse, d'une beauté. Et c'était la secrétaire. Et les deux, évidemment, étaient amoureux. La secrétaire qui les envisageait avec beaucoup d'affection ironique, comme ça. Et le matin, elle travaillait à la cave. Et le matin, elle travaillait dans la blanche. C'est-à-dire ça. Et Christian lui laissait des petits mots. Et les petits mots disaient... Un gros coup de bisou, 15 morts. Ou, je est un autre, mais ce n'est pas de moi. Ou, on ne devrait pas vivre tous les jours. Ou, si les enfants naissaient adultes, il y en aurait un peu moins. Ou, lever le coude, c'est la meilleure façon de baisser les bras. Ou, etc. Alors moi, je disais, mais Christian, ils sont géniaux, tes à peu près. Pourquoi tu les publies pas? Parce que moi, j'écris comme on se noie, c'est-à-dire très rarement. Donc ça a été les compagnons, hein, du début.
Vous avez rencontré le succès immédiatement avec les deux premiers...
Ouais, grâce aux intellos structuralistes qui lisaient cette littérature underground, ça s'est propagé par, oui, le CNRS, la Maison des Sciences de l'Homme, Sciences Po, tout ce qui était autour. Parce qu'ils s'en canaillaient, vous comprenez? Mais il n'y avait pas que moi, il y avait Didier Deninx, Jonquet, Thierry Jonquet. Vous vendez encore des romans de Thierry Jonquet? Tonino Benacquista, Jean-Bernard Puy. D'ailleurs, on avait quand même... Nous étions l'aristocratie du sous-sol.
Je ne savais pas, en disant Antonina Benacquista, que je lisais un frère de Daniel Pénac. Par contre, je savais, en lisant Fabrice Capizzano, que je lisais un fils de Pénac.
Alvan, c'était parce que je l'ai rencontré. Il travaille sur le marché à La Chapelle. Et quand j'ai su qu'il avait écrit La fille du chasse-neige, c'est le toubib de La Chapelle qui me dit, tiens, il y a un gars là, le marchand de miel, il a écrit un bouquin formidable, c'est lui qui me l'a donné, je l'ai lu. Alors là aussi, ma femme et moi, nous, quand nous remontons en voiture à Paris, enfin nous, quand nous étions plus jeunes, parce que maintenant on prend le train, elle m'a lu le Capitano en entier. Et en effet, je dis, mais ce type, c'est formidable. Il y a une énergie. Et puis, il y a là aussi beaucoup de folie, mais de la vérité aussi. Il y a des descriptions, des constats, des inhibitions, des trucs. Il écrit, oui, c'est bien. Vous en avez...
On l'a beaucoup, ouais.
Mais pourquoi
le
Vercors?
Pourquoi le Vercors? Ma... Non, au début de notre... Quand nous nous sommes rencontrés, au début, nous étions clandestins. Donc on est venu un petit peu se cacher. Et puis là, j'ai fait le Au bonheur des orgues, elle a fait Carabine et La petite marchande de prose.
Moi, j'ai une très très vieille question que je me pose depuis très 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 longtemps, parce que autant les dames qui cherchaient la maison à Corinthon, autant moi je cherchais la quincaillerie à Paris, parce que quand j'ai commencé à vous lire, j'habitais Paris, rue Clichon. Donc techniquement, c'était pas très très loin, donc j'essayais de voir les immeubles, qu'est-ce que ça pourrait être.
C'était à la rue de la Folie Regnault.
Et un jour, il y avait, enfin, plusieurs jours d'affilée, une caravane sur la place de Père-Lachaise. Et je me suis dit, mais bon sang, est-ce que quelqu'un aime Pénac et pose sa caravane là, ou est-ce que M. Pénac a vu la caravane et a imaginé plein de trucs?
Ouais, c'est en voyant la caravane que j'ai imaginé Thérèse disant la bonne aventure dans cette caravane. Ouais.
Je suis contente de le savoir.
Oui, ça fait partie des hasards, c'est les hasards, les trucs qu'on note, et puis ça oui, il y avait cette caravane. J'ai jamais su, j'y suis jamais rentré.
J'ai même posé m'approcher. Donc,
C'était, oui, il y avait une cartomancienne.
Si c'était vrai, si c'était pas vrai.
Ça, c'est la rue. Ça, c'est le. C'est la rue. Une autre fois, j'étais dans le bus. J'arrive, je prends le bus Gare Saint-Lazare, le 26, qui monte vers Belleville. Et il était vide. Donc, je m'installe avec un bouquin. Et puis, le bus très vite se remplit. Et puis il est bourré, et à un moment donné, il y a plus de place. Il y a une dame, une vieille dame, comme ça, qui arrive avec un cabas. Et l'air vachard, pas du tout la brigade du rire, hein, truc dangereux. Et il y a un jeune homme, très bien élevé, un jeune étudiant, qui se lève comme ça, qui dit: Madame, asseyez-vous, madame. Et la dame le regarde. Et le jeune homme lui dit: mais non, mais je vous en prie. Elle regarde et dit: non. Je dis: si, je vous en prie, asseyez-vous. Alors elle se met devant la chaise comme ça, avec son cabas, et elle dit: pas tout de suite.
Alors, non, je préfère pas.
Pas tout de suite. Et elle ajoute cette phrase extraordinaire. Et alors là, c'est le rapport de l'histoire et de la réalité. Et elle dit: j'aime pas quand c'est trop chaud. Alors, vous voyez les trucs de la vie. Vous vous marrez comme des baleines, tout ça, évidemment. Et pourquoi est-ce que vous vous marrez? Parce qu'on a tous plus ou moins ressenti ça en même temps. C'est en même temps un rire de solidarité, un rire sur l'incongruité, etc. Dans le bus, personne ne s'est marré. Les gens ont fait. Ils regardaient leurs pieds. Ils regardaient par la fenêtre. Et quand on la raconte à l'extérieur, tout le monde rigole.
Dans le journal d'un corps, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Parce que ça, c'est un souvenir d'un passage comme ça.
Oui, et ben ça, c'est vrai. dans le journal d'un corps, bon, tout est vrai. Il y a beaucoup de choses sont vraies, soit qu'elles me soient arrivées à moi, soit à des amis, soit parce que l'autre chose qui est vraie, c'est que la plupart des personnages des tribus malocènes sont des copains. C'est, oui, ça aussi, il n'y a pas beau, c'est de l'autofiction du malocène.
Vous avez un peu répondu en sortant votre ordinateur, mais je me demandais si vous écriviez avec un ordinateur ou... Mais les ordinateurs n'existaient pas avant. Papier, stylo, crayon...
Non, ça a été toujours la machine à écrire au départ. Un de mes frères, quand il s'est aperçu que j'écrirais, quoi, qu'on ne pourrait pas m'ôter cette manie, m'a offert une machine à écrire. Une Triomphe qui pesait, bam, que j'ai gardé pendant quelques temps, qui a ensuite été remplacée par les machines électriques, dont une IBM à boules. Vous vous souvenez des, vous n'avez pas eu ça, vous êtes. Ils sont d'une jeunesse insultante. L'IBM à boules, c'était une automitrailleuse. Ça pesait un âne mort. Et j'avais ça. Et l'histoire que je vais vous raconter est vraie. Nous étions à Belleville et mes copains disaient: t'es trop con avec ton IBM, allez, achète un ordinateur. Et moi je disais non. C'est idiot, fidélité à l'IBM à boule. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Quand on est fidèle, on est fidèle. Et un jour je craque et j'achète un ordinateur, les petits cubes là. Ouais. Si vous êtes trop jeune, pas avoir connu. Et mais à l'époque, il y avait des délais de livraison. 3 semaines. J'étais dans Monsieur Malocène. Cling. Et on sonne à la... Je vous jure que... Mine, tu vas dire, je vous jure, il y a un témoin. On sonne à la porte et ma machine à écrire explose. Elle fait pouf. Il y a une espèce de fumée dégueulasse. Morte. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Oui. C'était l'arrivée de l'ordinateur.
Protestation.
Protestation. Suicide de la machine.
On va prendre une dernière question, puis après on va ouvrir un peu plus la porte. Oui. Avant de fondre.
On peut descendre la vitrine, peut-être. Oui.
On parlait de Benakista et je voulais savoir le rapport à la bande dessinée. Parce que entre Tardy qui fait les couvertures.
Avec Tonino.
Merci. Et Panaccione. Vous ne travaillez pas qu'avec des Italiens.
Eh non, mais lui, c'est étonnant, là. Benacquista, on a fait un jour, c'était une commande, c'était des Lucky Luke. On a fait deux scénarios de Lucky Luke. C'est pas mon meilleur souvenir, parce que c'est l'idée de poursuivre le travail des morts. J'ai dit oui pour parce que on s'amusait à travailler ensemble, des vieux copains. Mais voilà, on a fait ça ensemble. Mais lui a écrit de très beaux romans. Il y en a un de l'époque dont je vous parle, je ne sais pas s'il existe encore, il doit exister en folio, qui s'appelle La Commedia des ratés. Très beau roman. Et le dernier, qui est un livre sur sa propre immigration en France, est très bien. Très très bien. Dans les conseils de lecture des copains, parce qu'évidemment, mon éditeur chez Gallimard est un ami qui s'appelle Jean-Marie Laclaftine. Et Jean-Marie Laclaftine, son avant-dernier livre est un livre qui s'appelle « Une amie de la famille » qui est absolument magnifique et bouleversant. Quand il avait 14 ans, il était allé à... je sais pas où est-ce que c'était, dans une ville du sud-ouest, et une... l'âme de mère l'a emporté, lui, sa sœur, son grand frère et le petit ami de la sœur. Et ils s'en sont tous sortis, sauf la sœur qui est morte. Pendant 50 ans, plus personne n'a prononcé. Les parents étaient tellement traumatisés que la gamine a été anéantie oralement. Un point qu'il y avait un portrait chez elle et un camarade du grand frère dit « Mais qui est cette jeune femme ?» Et le grand frère répond instinctivement « Une amie de la famille. » Et une des filles de Jean-Marie lui dit « Mais papa, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce silence ?» Elle s'est noyée. C'est uniquement la douleur. Et 50 ans plus tard, il ressuscite cet enfant en analysant cette douleur, la nature de cette douleur. C'est un livre, mais magnifique.
Merci beaucoup.
Merci. Quand même, avant de nous séparer, des petits partages de lecture.
Prenez des notes, s'il vous plaît.
Non, c'est au cas. Oui, c'est mon côté prof. Qui a lu Madame Hayat? Oh, quelle chance vous avez. Toi, tu l'as lu. Madame Hayat, roman merveilleux. Écrit par un Turc, Ahmed Altan, que cet abruti d'Erdogan a évidemment foutu en tôle. Écrit en prison. Je ne vous en dis pas davantage. C'est très, 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 très beau. Voilà, puis j'arrête.